Bonjour chers auditeurs, alors nous sommes en direct de la Busserine, la cité de la Busserine, pour l'émission radiophonique qui a lieu le dernier jeudi de chaque mois à 13h30. Donc nous sommes le 29 mars 2018 et nous sommes en présence de Mokhtar Wali. Alors pour une première fois, nous n'avons pas choisi un travailleur social, nous avons choisi donc quelqu'un du quartier qui connaît le quartier depuis très très longtemps. Il a une mémoire bien précise de ce qu'était le quartier dans les années 60. Donc nous sommes en direct avec Mokhtar Wali. Bonjour Wali.
Bonjour.
Donc Wali, je suis content que tu aies pu te libérer pour participer à cette émission. Nous ne sommes pas bien nombreux, mais nous aurons certainement des auditeurs tout à l'heure qui nous rejoindront. Il faudrait savoir, donc tu t'es arrivé dans les années 60. Comment était la vie du quartier à ce moment-là ?
À ce moment-là, la vie dans le quartier était vraiment très bien. On avait beaucoup, énormément de verdure, des espaces vraiment beaux.
Des espaces verts, quoi. Le quartier était...
Des espaces verts, oui, beaucoup, énormément d'espaces verts, puisqu'on avait notre forêt, qui aujourd'hui est Carrefour Le Merlan.
D'accord, à la place de Carrefour Le Merlan, donc il y avait une forêt.
Une forêt. Où on appelait à l'époque, il y avait c'était le propriétaire, on l'appelait l'homme au fouet.
L'homme au fouet, j'en ai entendu parler, effectivement.
Voilà.
Quelques années après, j'en ai entendu parler. Qu'est-ce qu'il y avait ? Alors, à l'époque, le quartier, est-ce qu'il y avait encore les bidonvilles de fond vert ? Est-ce qu'ils étaient encore...
Oui, il y avait des bidonvilles. Quand je suis arrivé, moi, à la Busserine, ils étaient au niveau de la rocade où il y a la maison des familles.
Le boulevard Salvatore Allende.
Voilà, qui montait jusqu'à la Benosse. On avait plus bas le canal qui passait.
Oui, qui traversait la colline de...
Il y avait une petite colline, elle était petite celle-là, mais elle traversait, oui. Et on tombait sur la tour H.
Oui.
Voilà, c'était la tour H. Et le bâtiment P juste à côté.
H, la tour H à Picon ou
à... Non, à la Busserine.
À la Busserine, d'accord.
K, pardon, la tour K. Pardon, je me suis trompé. La tour K, à la Busserine.
Alors, lorsque tu es arrivé dans ces années-là, il n'y avait pas encore Saint-Barthélemy 3.
Il n'y avait ni Saint-Barthélemy 3, ni la Benosse, ni les Flamands, ni les Iris, ni le Maï.
Donc, si je comprends bien, il y avait le bâtiment P, le bâtiment J... La Tourca, Picon,
le M et le L.
Fondvert aussi de l'autre côté. Est-ce que Fondvert était déjà construit ?
Fondvert était en construction.
D'accord, dans les années 60. Quels étaient vos souvenirs d'enfant à ce moment-là ? Quelle était la vie ? Quels étaient vos loisirs ?
Nos loisirs, nous, bon, on n'était pas branchés comme les jeunes d'aujourd'hui. Nos loisirs, qu'est-ce que c'était ? On jonglait avec des espèces de jongleurs qu'on faisait avec les chambres à air, qu'on les coupait en lamelles, on les raccordait et on jonglait avec ça. Ouais. On jouait à la roue avec une jante, avec un fil de fer qu'on modelait à la roue et on roulait avec.
Effectivement, j'ai connu tout ça, puisque nous sommes de la même génération, donc j'ai connu ces espèces de boules de caoutchouc avec les oui, effectivement, que vous faisiez jongler, les roues, effectivement, l'enfant courait derrière sa roue et la faisait circuler.
Exactement,
comme ça,
ouais. Et on avait nos jeux à nous, on jouait à la femme électrique, c'est-à-dire il y avait 10 bonhommes, 2 qui devaient toucher les 8 autres, et à chaque fois qu'ils touchaient, on se bloquait. Et on essayait, les autres qui étaient libres essayaient de délivrer à chaque fois. Ouais. C'était un jeu plaisant, c'était bien.
C'était simple et pourtant, avec peu de choses, les enfants arrivaient à jouer. Il y avait aussi, c'était l'époque, des osselets, non, il me semble.
Il y avait les osselets aussi, oui, c'est vrai.
Les pignons d'olive, les pignons de raisin.
Même pas de raisin, non, c'était de pêche.
De pêche, oui.
De pêche ou abricot ? Les pignons d'abricot.
D'abricot.
Voilà, d'abricot.
Effectivement. Est-ce que tu penses que... Quelle était la composition de la population à ton arrivée ? Donc, tu étais arrivé dans le quartier, tu avais quel âge ?
Ouh là là, c'est un peu lointain, mais j'étais très jeune. Puis après, bon, on va dire 3-4 ans après, hein, j'ai un peu plus vieilli. Et elle était composée de quoi? Le quartier était composé de quoi? Il y avait de tout. Voilà, il y avait de tout. C'était mélangé, c'était un quartier cosmopolite. Mais il y avait une entente merveilleuse. On n'a pas connu le racisme à cette époque-là.
Alors, la population, il y avait des gitans.
Il y avait des gitans, il y avait des noirs, il y avait des arabes et il y avait des français, des italiens. Quand on dit français, c'est européen. Bon, il y avait des italiens, il y avait des espagnols, il y avait un peu de tout.
Rappelle-moi des noms d'habitants, de familles de ce quartier, du bâtiment P. Parce qu'en fait, on parle de quartier, mais la Busserine était pratiquement axée sur...
Mais c'était le bâtiment P qui primait.
C'était le cœur de la Busserine.
C'est lui qui a fait la Busserine quand même. Qui avait comme habitants, alors je me rappelle du P1, il y avait la famille Boaban, qui sont partis à Vénissieux, à Lyon. Il y a eu la famille Chambry. Aujourd'hui, je crois qu'ils vivent au bâtiment J.
Oui, il y a la maman.
Une fille. Il y avait Trovatello. C'était des Italiens.
Sidrati.
Il y avait Sidrati, ça c'est le P5.
P5, d'accord.
Il y avait monsieur et madame Carfi. Il y avait monsieur Benaïm au P4. Il y avait les Moussaoui. Ouais. Atali, Azega, Lopez, il y en a eu. J'en oublie un petit peu, mais il y en a eu.
Il y avait la famille Sidrati, effectivement. Le pompier, c'était quelle famille?
J'essaie de me remémorer son nom, là. Je sais que c'était Bernard Olivero.
Il y avait la famille Lacroix.
Il y avait la famille Lacroix, ouais. Oui, exactement. La famille
avec Michou, un personnage, la famille.
Contreras. Carreras.
Carreras. La famille où il y avait Amar.
Adjoumout, la famille Adjoumout, voilà. Oui, exactement.
Il y a quand même pas mal de familles.
Là, je me remémore, doucement.
La famille Agoun, mais ils sont arrivés après.
Mais ils étaient quand même, ils sont anciens.
Il y avait même Fernandez, il me semble.
Fernandez, oui, c'est ça. Où on appelait la maman Madame Flicka. Ah oui, je me souviens, bien sûr.
Donc effectivement, on s'aperçoit que la composition de la population était très cosmopolite.
Cosmopolite,
en fait,
hein. Ah oui, oui, oui.
Il y avait de tout. Moi, je me souviens, je suis arrivé quelques années après Wally, puisque j'étais en face du bâtiment B. Nous avions la chance, quand nous sommes arrivés dans les années 70, le bâtiment a été construit et nous avions un vis-à-vis. Donc... le bâtiment P nous observait et nous observions le bâtiment P, en fait. De fait, 10 années après, j'ai connu cette population-là aussi. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait des familles nombreuses ou la composition des bâtiments, c'était quoi? Il y avait des T1, T2?
Non, T1, T2, ça n'existait pas. Oui, à la tour Q. Mais sinon, le P, c'était des T6, T7. Hein,
T6, T7.
Parce que c'était des familles nombreuses.
Voilà. Ça veut dire 6 chambres.
C'est ça.
6 à 5 chambres.
On avait quand même 3 grands balcons, que ce soit devant ou derrière.
Donc la plus-value à cette époque-là de ces bâtiments, c'était neuf. Il y avait des grands balcons.
Voilà.
Il y avait donc de quoi accueillir des familles nombreuses.
Hein. C'est ça.
Et au niveau des espaces verts, derrière le bâtiment P, est-ce qu'il y avait un aménagement particulier pour des jeux
Non, on avait un petit terrain vague. C'était notre terrain de foot. Mais derrière, c'était la colline. Il n'y avait que la colline, la forêt, ce qu'on appelait la forêt.
Et devant.
Et devant, on avait la tour K,
ouais.
Et la route.
Le bâtiment de... Est-ce que les magasins existaient déjà?
Alors, concernant les magasins,
ils sont arrivés
moi, je me rappelle, je ne me rappelle plus exactement l'année exacte, mais je sais que les premiers à avoir ouvert une alimentation ont été M. Tchir avec M. Sedrati. Puis après, M. Sedrati s'est déplacé, il a pris une supérette à la Citadelle, et M. Tchir a pris... la supérette de Monsieur Charbit.
Oui, Monsieur Charbit était derrière.
Derrière.
Voilà. Il y avait aussi Francine.
Et il y avait la boulangerie, c'était Francette.
Francette, ouais.
Voilà. Il y avait un boucher. Ouais. Et il y avait l'alimentation. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait.
Il me semble qu'à côté de M. Thire, de M. Charby, il y avait le légumier.
Ben oui, c'est ça, l'alimentation.
C'était l'alimentation, il y avait des légumes aussi, voilà. Effectivement. Tu te souviens plus à quelle année voilà.
Non, ça non.
On va demander aux auditeurs s'il y en a parmi nous en ligne qui veulent témoigner de cette époque-là, de la Busserine à ce moment-là. Ils sont les bienvenus. Donc, en attendant, on poursuit. Quels étaient les besoins de la population au niveau des enfants? Il y avait, vu que c'était quand même des familles ouvrières, est-ce qu'il y avait une animation particulière qui était mise en place? Est-ce que vous avez déjà connu l'arrivée de l'atome? En quelle année
Oui, il y a eu l'arrivée de l'atome avec M. Alain Sobrero et Marc Cressant, voilà. Qui est arrivé plus tard. Mais avant ça, il y avait quand même des personnages quand même emblématiques du quartier. Il y avait M. Muratti, c'était lui le fondateur du FCB, Football Club Busserine.
Tu avais quel âge à ce moment-là?
J'étais jeune, hein, j'avais quel âge? Je devais avoir peut-être entre 12 ans, 12-13 ans à peu près.
12-13 ans, d'accord.
Voilà. Et à ses côtés, il y avait Monsieur Lopez.
Donc, je disais, dans les années, la construction de réseaux associatifs s'est faite. Donc, tu t'es arrivé, tu avais quel âge?
4-5 ans dans les années 67-68.
Voilà, d'accord. Voilà. Donc, c'est à partir de ce moment-là que la vie associative du bâtiment P a commencé à se mettre en place.
Ouais.
D'abord avec Monsieur Muratti. Tu m'as parlé aussi de Monsieur...
De Monsieur Grandmonnier. C'était le fondateur du cercle de boules qui se trouvait le local au P5, juste en dessous de la chambre de mon père.
D'accord, voilà. Effectivement. Des souvenirs qui... Si Amina Thire veut intervenir, puisque je sais qu'elle écoute l'émission et qu'elle est de la génération de Wally, à quelques années près, et qu'elle veut intervenir et pour nous livrer quelques images, quelques souvenirs sur le quartier, elle est la bienvenue. Est-ce qu'on peut dire que... Alors, le bâtiment, en gros, la Busserine, c'était le bâtiment P, le bâtiment J et le bâtiment M. C'était ces trois...
Le J, non. C'était le bâtiment P, la tour Q, le L et le M.
Le L et
ça,
le M.
C'est la Busserine.
D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait en face du bâtiment P, à l'endroit où nous sommes
Justement, c'était un terrain vague. Il s'appelait Dumaine, le terrain Dumaine. Il y avait M. Thire qui habitait le château, un des premiers arrivants ici. Hein. Mm-hmm. Voilà, c'était que des espaces. Hein.
Alors du coup, si on essaie de se projeter à l'emplacement de Carrefour-le-Marland, il y avait une colline.
C'est la forêt.
Le bâtiment P, qui n'existe plus, mais nous sommes au bâtiment E en face. Ouais. Il y avait donc le petit îlot de magasins donc, de M. Thire, des commerçants.
C'est ça.
Et l'espace vert allait jusque devant le bâtiment J, devant tout ça, bâtiment J, bâtiment M, tout ça, c'est que des espaces verts, en fait, à l'emplacement.
À l'époque, oui.
C'était ça.
Les routes n'étaient pas goudronnées.
Ouais.
C'était des terre-pleins. Hein.
Comment on accédait donc au quartier la route allait jusqu'où? Je crois qu'on a une auditrice en ligne. Donc, Yamina, bonjour, si tu veux intervenir et te présenter.
Oui, bonjour, je m'appelle Yamina, je suis la fille de M. Thire. On a habité le quartier en 1957, avant qu'il y ait la construction du J, la construction du H.
On t'écoute, Yamina, t'écoute.
Ça s'appelait la propriété de M. Étienne. Donc, il y avait des Espagnols, il y avait mon père, il y avait des Italiens. Ils ont acheté une parcelle de son terrain, on a construit notre maison dessus. En 1959, on a eu la visite de l'ingénieur M. Vadier, qui nous a demandé de céder le terrain parce qu'il voulait construire une cité, il voulait nous reloger.
Donc,
appartient, oui, carrément. Il n'y avait plus le bâtiment G. Donc, elle avait pourquoi
il y avait ni le bâtiment G, ni la hache, ni le fer. Oui, il y avait des pétanvilles qui étaient à Saint-Barthélemy. Il y avait, à la cité Pont-Vert, il y avait, ils ont commencé à construire une cité d'urgence, c'est-à-dire de préfabriquer. Mm-hmm. Il y avait, dans le quartier, uniquement, au-delà de la voie ferrée de l'autre côté, la campagne Picon. Donc, quand on est arrivé, la campagne Picon existait. Elle était en construction, c'était pas terminé, mais la campagne Picon existait. De l'autre côté, où est-ce qu'il se trouve maintenant, des compagnies, il y avait des bidonvilles. Madame Compagnon, il y avait des bidonvilles.
C'est-à-dire face au camp militaire, face
au... Voilà, exactement. Mmh. Et moi, quand on est arrivé, mon père, il va acheter ce terrain, pour ce terrain à Étienne. C'était la campagne de M. Étienne. Il y avait trois campagnes qui se trouvaient à la Boucherine. Il y avait la campagne Marlin, qui allait jusqu'au Léran. Il y avait la campagne où il y avait M. Bonarito et le château de Mme Nègre, parce qu'il y avait un château, c'est un propriétaire, c'est un nègre.
Le château se situe à quel endroit? Au niveau du Mail?
C'était sur... Pas au niveau du Mail, au niveau de Saint-Barthélemy 3.
Saint-Barthélemy 3, d'accord. Au niveau du stade.
D'accord. C'est là où il y avait le château.
Ouais.
Oui. Et avant qu'on ait le château, donc nous on habitait là avec la famille Cava, la famille Quesada, la famille Scolo, la famille Scarfo. Il y avait des Italiens, uniquement des Italiens, des Espagnols. Il y avait une seule famille de Tunisiens. Il y avait des familles d'Algériens qui arrivaient d'Algérie, bien évidemment. Donc on habitait tous là à côté. On a été expropriés, mais presque. Parce qu'on nous a dit, maintenant on va vous donner un endroit où vous habiterez, vous laissez ce que vous avez, et en contrepartie vous serez bien logé, vous n'aurez pas de loyer, ça sera à vous. On nous a orienté, on nous a orienté vers le château de Madame Nègre, pour qu'on puisse nous en habiter, pour qu'eux puissent construire la hache, la J. Et le pain.
Ah d'accord,
on n'avait pas encore le projet du Grand Saint-Barthélemy III.
Oui.
Il est venu après, il est venu dans les années 65.
Mais ce château, il était important, ce château?
Le château, il était immense. Il y avait le château par lui-même, il y avait des indépendances. Mais pas les indépendances qu'il y avait, il y avait des familles françaises. Il y avait la famille Bruno, lui, il était le maraîcher. Là où il y a le juste un peu de la logique.
Donc c'était en quelle année, ça? Il y avait des
vergers, il y avait tout.
Et c'était une année, ça, Amina. Est-ce que tu peux situer pour nous?
Pardon?
Est-ce que tu peux nous situer dans le temps? C'était en quelle année?
Je te dis, 57, nous, on a quitté
1959.
En 1959, il y avait ce château qui datait, hein, puisqu'ils n'ont pas construit le jour où nous arrivons. Il y avait ces indépendances où il y avait M. Bruno, M. Botin, M. Bonarito. Il y avait un qui avait du bétail, qui faisait le fromage, tout ça. Il y avait M. Bruno, c'était le maraîcher, et donc il y avait des légumes et il y avait des fruits. Et il y avait M. Bonarito, lui, qui travaillait avec Merlin. Merlin, eux, ils avaient des étendues de fruits et légumes. Je te dis qu'elle allait jusqu'au Merlin.
Ah oui, c'était immense, c'était vraiment... On était dans la banlieue du...
Il y avait la campagne Picard, la campagne Merlin. La campagne
Bruno. Je te remercie, Amina, pour ces...
C'est appartenant au père de M. Etienne.
Ouais.
Celui qui était propriétaire de la campagne Picon. Donc, notre histoire, elle a bien démarré dans les années 57. Et même si on était petit, on se souvient de tout ce parcours qu'on a fait.
Est-ce que tu te souviens est-ce que tu te souviens de la campagne du Maine aussi?
Du Maine.
Le domaine du Maine. C'était juste en face. Du Maine. Ça te parle pas?
Du Maine?
Oui.
Non.
D'accord, donc c'était peut-être... Non, mais c'est bien parce que du coup, vous avez des visions complémentaires, vous avez des regards complémentaires, puisque tu es carrément arrivé quelques années avant Wally, puisque le bâtiment P...
Est-ce que je peux intervenir, mais dans un moment, parce que là, je suis obligé de raccrocher.
Je te remercie, Amina, pour ce témoignage précieux. Oui,
je rappelle.
Il n'y a pas de souci.
Pourquoi tu es obligé de raccrocher?
Donc Wally, Yamina est arrivée dans les années 57. 57. Toi, tu es arrivée en 62, donc il y a quelques années de différence. Est-ce qu'on va faire... Sidi, est-ce qu'on peut faire une petite pause musicale et reprendre après ? À tout de suite, après cette pause musicale. Alors, bonjour, bonjour, nous revoici à la Bucerine en compagnie de Mokhtar Wally et nous reprenons le cours de l'émission sur la Bucerine. Yamina Tir nous a parlé de la Bucerine dans les années 69-70, Wally dans les années 59, excusez-moi, 57-59, Wally est arrivé en 62. Est-ce qu'on peut parler, Wally, de quels ont été les premiers changements ? Donc, qu'est-ce que tu as vu comme construction dans ce quartier après les années, début des années 70, non ? Enfin,
ouais. C'est ça. On a vu la construction de Saint-Barthélemy III, les pelles mécaniques qui arrivaient avec les camions pour détruire notre forêt, parce que c'était notre forêt. C'est clair. Pour la construction de Carrefour Le Merlan. C'est déjà pas mal.
Carrefour Le Marlin, c'est dans quelle année?
Il a ouvert en 76. Ils sont arrivés à peu près 3 ou 4 ans avant.
D'accord.
Voilà, pour détruire la forêt et faire la construction.
Tu as vu aussi donc, la première partie de la forêt donc, détruite pour le centre commercial. Est-ce que ça correspondait à des besoins de la population? Est-ce qu'il y avait ce besoin d'un grand centre commercial pour vous éviter des va-et-vient au centre-ville?
Je pense que oui, parce que les politiciens voient toujours plus loin ce que nous, on ne pense pas. Eux le pensent. Pour les années
ils
à venir.
Ils anticipent, tu veux dire.
Ils ont anticipé. Ils ont anticipé parce qu'ils avaient dans leurs mains, ils savaient qu'il allait y avoir les flamands, qu'il allait y avoir les iris, qu'il allait y avoir la benosse, qu'il allait y avoir le mail et Saint-Barthélemy III.
Donc avant les années 70, comment les familles s'organisaient pour pouvoir faire leurs courses, leurs commissions? Est-ce que ça demandait des va-et-vient?
Non, parce qu'à l'époque, on avait le marchand de glace qui venait nous vendre des pains de glace parce qu'on n'avait pas de frigo.
Il y avait Monsieur Amaro à l'époque.
Monsieur Amaro, lui, nous vendait les glaces, mais à manger, c'est pas pareil.
Oui. Effectivement, je me rappelle de la camionnette qui venait avec des pains de glace.
Voilà. Ouais. Puis on avait les charbonniers qui venaient nous livrer le charbon.
Ouais. Vous aviez des poêles à charbon à la maison.
Exactement. Et puis après, il y avait un camion. Le bonhomme, je me rappelle, il s'appelait Ossine. Il venait avec un camion bleu, une grosse estafette. Et il avait tout. C'était un magasin ambulant. Voilà.
La viande
La viande, c'était le père, c'était M. Alouani, le père de l'Almi. Uh-huh. C'est la première boucherie qu'il y avait à la Busserine. Ça se passait au niveau en face de l'école, l'ancienne école de la Busserine.
D'accord.
Voilà. Il y avait le centre Léo Lagrange, juste en face. Il y avait M. Alouani qui vendait la viande. C'était le premier boucher de la Busserine.
Et il y avait aussi le commerce de M. Tire qui était à la colline, il me semble.
Ça, c'est quand il s'est mis en association avec M. Cedrati.
D'accord.
Et il y avait un petit magasin qui était à la colline. Franchement, c'était bien.
Ah oui.
Ouais, c'était merveilleux.
Est-ce que le centre Carrefour Le Marlin a été bien accueilli pour les familles nombreuses? Parce que toutes, je suppose, n'avaient pas les moyens d'aller se ravitailler au centre-ville. Est-ce que le centre Carrefour a été un plus?
Ça a été un gros plus. Un gros plus parce que, faut le dire, c'était pas cher. C'était à la portée de tout le monde. Voilà. Carrefour a fait du bien. Et malgré son emplacement, c'est-à-dire en plein milieu du quartier nord, je crois que c'est le Carrefour où il y a le moins d'incidents.
D'accord.
Voilà. Ça, il faut le préciser quand même.
Donc, avec Carrefour Le Merlan, est-ce que tu as vu le début des premières constructions, les équipements, les associations, le début de la vie associative? Tu as parlé donc de M. Gramonnier, du Cercle de Boule, de M. Murati.
Voilà.
Les premiers équipements culturels du quartier, t'en souviens-tu?
Oui, il y a eu déjà le centre socio-culturel.
Le CCO, c'était le Centre Culture Ouvrière.
Voilà, au départ, parce qu'on allait là-bas.
L'actuel espace culturel Busserine.
Il y avait juste un peu avant, il y avait l'Atom.
L'Atom se situait où, en fait?
Au bâtiment P.
Au bâtiment
P1, en dessous, il y avait les locaux, avec M. Sobrero, Alain Sobrero. Non, sincèrement, à l'époque, c'était bien.
Et les premières animations qui étaient proposées aux jeunes, après vos jeux spontanés, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on vous proposait? L'Atom, quelle était l'orientation, les objectifs et le plus de l'Atom pour la population du
alors,
quartier?
Alors, l'Atom, il y avait plusieurs activités. Je me souviens, parce que j'en ai fait partie d'une, on devait faire une représentation pour Noël, la fête de fin d'année. Et je me rappelle, je m'étais déguisé en Pierrot. Voilà, on faisait un petit peu, on va dire, du théâtre. Voilà. Puis après, on jouait devant les habitants.
Les parents, bien
les parents, les habitants.
Est-ce qu'il y avait des sorties organisées?
Oui. C'est à cette époque-là, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'ai connu QG Les Pins, le centre d'attraction, là.
Ouais.
Oui, il y a eu les colonies. J'allais
c'est au Quai Coral, non?
Au Quai Coral, oui. QG Les Pins, c'est au Quai Coral. J'ai connu aussi Ganagobi. C'était la colonie de vacances,
ouais.
La Condamine. Oui, il y a eu des sorties.
Les premières sorties du quartier ont été organisées par le biais de la TOM.
J'oublie pas de remercier, parce que bon, aujourd'hui, ils ne sont plus là, malheureusement, mais c'était des gens très merveilleux, humains, surtout humains. C'était monsieur et madame Belpère.
Ils étaient du quartier ?
Des responsables de la TOM. Les patrons.
Est-ce qu'il y avait une circulation à ce moment-là entre Picon, Busserine et des échanges? Donc, on arrive dans les années 70, 75, tu es adolescent.
Oui.
Est-ce qu'il y a des va-et-vient qui se sont organisés autour du quartier? Est-ce que vous sortiez du quartier? Est-ce que vous avez l'impression d'être enclavé? Ou est-ce qu'il y avait une circulation qui se faisait entre
la population? Non. Je n'ai jamais senti une enclave de quelque ordre que ce soit. Hein. On était bien, on s'entendait bien avec tout le monde. Bien sûr, après, c'est comme de partout. Il y a des petites bagarres qui se forment entre Fond Vert, la Busserine.
Ça soude les liens après, quoi.
Voilà. Mais on se connaissait presque tous. Il y avait de très, très bons joueurs de ballon. Non, sincèrement.
Le club de Trois-Cités, c'est venu bien après, dans ces
après,
années-là.
Après, beaucoup après.
Dans les années 76, 70.
Voilà, c'est venu après, le club de Trois-Cités.
Avec exactement. Monsieur
et Trois-Cités, moi, je...
Ah, d'accord.
Moi, c'était l'FC Busserine. C'était pas Picon.
Tu portais des couleurs, d'accord.
Ah oui, oui.
Monsieur Cravero, il me semble qu'il y avait...
Non, ça, Monsieur Cravero, c'est à Picon.
À Picon,
c'est
Picon,
les Trois-Cités,
Picon,
oui,
c'est ça,
oui,
tout à fait.
Que je connaissais son fils, Jean-Pierre Cravero, bien sûr.
Vous étiez plutôt club concurrent, quoi.
Voilà, d'accord. Voilà.
Au niveau de l'école, lorsque tu es arrivé, donc, tu avais 10 ans, même pas 6, 8 ans.
Voilà.
L'école primaire se trouvait où, en fait?
Actuellement, il y a les locaux de l'Agora,
oui,
si je ne me trompe pas. Ouais. Voilà, ça, c'était l'école des
garçons. Il n'y a pas eu d'école à GECO, il me semble? Non, il n'y a pas eu d'école.
Non, il y a eu ça, mais ici, c'est-à-dire pour les cours du soir, c'est juste derrière le P.
Derrière le bâtiment P,
Il y avait des AGECO, et là, c'était des cours...
D'accord, soutien scolaire, etc.
Exactement. Mmh.
Est-ce qu'on peut dire, je crois que tu as commencé à l'évoquer, tu as parlé d'une enfance, une adolescence heureuse.
Oui.
Donc tu penses que les enfants, malgré le manque d'équipements sociaux, puisque la maison des familles est arrivée bien après, l'espace culturel Busserine est arrivé après, la maison du quartier, tout ça, donc malgré ça, il y avait une enfance, tu avais l'impression d'être heureux à ce moment-là.
Non, c'est pas j'avais l'impression, j'étais heureux.
J'étais heureux.
On était tous heureux de
Quels
toute façon.
Quels étaient les liens entre la population, les contacts entre vous?
Les contacts, ils étaient merveilleux parce que on avait encore des valeurs quand même, hein, faut le dire. Le voisinage, ne serait-ce que le voisinage. Là, j'entends parler la fête des voisins, je ne sais pas quoi. Non, nous, ça n'existait pas, la
c'était
fête des voisins.
C'était spontané.
Nous, c'était direct. Voilà, si à côté, il y avait la voisine qui faisait un bon couscous, hein, ben, elle envoyait l'assiette.
Ouais.
Comme on dit, elle envoyait l'assiette. Ouais. Et c'était réciproque. Voilà.
Il y avait un partage.
Que ce soit Madame Carfi qui était italienne, quand elle faisait des bonnes pâtes, elle en envoyait. Mm-hmm. Voilà. Et quand c'était Monsieur Santiago qui faisait une bonne paella, il nous en envoyait aussi.
Donc il y avait un partage, des échanges.
Voilà. Il y avait franchement, c'était vraiment bien. Voilà.
Solidarité. Oui. Le vivre, je vois que la notion du vivre ensemble, on n'a rien appris, quoi. Hein. Elle existait bien avant que cela devienne galvaudé, que le terme soit galvaudé et repris par tout le monde. Solidarité, soutien, partage. À quel moment on peut parler de tournant dans l'histoire de ce quartier, au-delà des équipes de l'arrivée des équipements sociaux, du centre commercial, à quel moment tu as eu l'impression que le quartier commençait à changer?
Personnellement, moi, je ne mets pas en cause, mais je dis que là on parle directement de délinquance, hein, c'est arrivé avec ce film La fièvre du samedi soir.
Donc,
j'ai vu le changement à partir de là.
Ouais.
Quand il y a eu ce film, ça a commencé, il y a eu une petite débandade avec Scarface, ça a dégénéré.
Donc je pensais que donc c'est pratiquement avec l'arrivée des nouvelles constructions, puisque Saint-Barthélemy 3. Alors là, on parle d'une époque commune avec les courses des voitures volées, des R16 dans le quartier.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Donc, ça, c'était les années où.
R16, R12.
Voilà. Donc, oui. Wally et moi, nous étions voisins donc, au niveau des deux bâtiments. Donc, c'était à peu près à l'époque où on a commencé à construire les grands ensembles, que la première délinquance est arrivée sur le quartier. Est-ce que tu peux nous parler des chalets? Tu as connu les chalets à la Busserine ?
Les chalets. En quelle année c'était ça ?
Il me semble, non, c'était avant. Les chalets, c'était à l'époque des Algeco, non, tout ça ?
J'ai pas vu les chalets.
D'accord, tu n'as pas de souvenir précis par rapport à ça.
Si c'est dans les années 70, peut-être qu'il y a eu les chalets, mais j'ai eu une période un peu difficile.
Oui, excuse-moi. Ah, Sidi me rappelle à l'ordre, parce que je me suis éloigné de mon micro. Donc, dans les années 70, on parle des premières manifestations de délinquance dans le quartier. Les voitures volées, c'est vrai qu'on voyait ces courses, ces rondes de voitures volées qui traversaient le bâtiment, passant sur la rocade devant Picon, devant le bâtiment P, devant la tour, et on avait la police qui les coursait, et les R16 faisaient grincer les pneus. Il y a eu même quelques petits accrochages avec des habitants du quartier. Donc, dans les années 76, premier changement. Quelles ont été les premières difficultés rencontrées pour la population, pour les jeunes du quartier ? Toi, en tant que jeune, quelles ont été tes premières difficultés ? Est-ce en fonction du monde du travail ? Est-ce en fonction des sorties à l'extérieur ? Quelles ont été
C'est-à-dire, nous, à l'époque, on n'avait pas cette chance d'être aidé pour le travail qu'aujourd'hui, ils l'ont, les jeunes. Et malgré ça...
Alors, vous n'étiez pas. Je me rappelle qu'on parlait de la cité où il n'y avait rien. Il n'y avait pas de travail, pas de moyens de locomotion pour aller au centre-ville, ouais, à l'époque.
C'est qu'après qu'ils ont mis le 33.
Voilà. Donc.
Beaucoup plus tard.
Et les premières difficultés, elles ont été d'ordre professionnel pour l'insertion, d'ordre. Lorsque vous alliez au centre-ville pour.
Non, c'est-à-dire nos parents, c'était pas des gens qui étaient aisés, hein. Pratiquement tous ne savaient ni lire ni écrire. On vivait selon leurs moyens.
En fonction des moyens des parents.
Des parents, ouais. Voilà. Ouais. Et voilà. Hein. Et puis après, bon, il y en a qui sont restés dans le droit chemin. Il y en a qui ont bifurqué.
Ça fait partie de la réalité de toutes les deux.
Moi, par exemple, hein, je le dis, hein, et j'ai pas honte.
Il n'y a pas de souci.
Voilà, hein, mes parents ont tout fait pour que je sois vraiment droit et correct. J'ai toujours été correct et respectueux. C'est déjà pas mal. Et puis après, il y a eu ce manque, et ce manque, j'ai essayé de le combler en faisant des petits larcins. Hein,
voilà, comme beaucoup. Dire, c'est une réalité que beaucoup de gens.
J'assume puisque j'ai payé.
Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On n'est pas là pour te juger. On est là pour parler de la mémoire du quartier. Et à ce niveau-là, je pense que tu es quand même bien compétent pour nous rappeler. Moi, je me rappelle d'une période. Je me rappelle d'une période où le dimanche matin, on voyait toute ta génération, Cédrati, Wally, Nouri, en face du bâtiment P, là, avec les nuques longues, les pantalons taille haute, prêts pour aller affronter le centre-ville. Donc, c'était l'adolescence, quoi, hein, les premières sorties à l'extérieur. Comment se passaient un petit peu vos excursions dans le centre-ville. Effectivement, Wally est en train de me montrer des photos de lui à cette époque-là. Et c'est tout à fait l'époque dont je me souviens où, à 18-20 ans, le quartier allait prendre la possession du centre-ville.
Tu peux les mettre. Tu peux les photographier.
Oui, je vais les prendre. Je vais les prendre en photo après. Je pense qu'il y avait une intervention de Yamina qui voulait intervenir. Donc, Sidi, si tu veux bien... Hein? Oui, allô.
Oui.
Yamina, si tu veux bien prendre la parole.
Eh bien, écoute, désolé d'avoir raccroché subitement. J'étais en train de parler du quartier. Je t'ai dit, nous, le quartier, bon, on était depuis 1957, on a vu se construire le J, on a vu se construire le H, le C. C'est arrivé beaucoup de gens d'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, c'est-à-dire avec des Européens. Il n'y avait pas spécialement, c'était pas comme ça aujourd'hui, mais comme il y a une vingtaine d'années. Il y avait plutôt des pieds noirs qui habitaient le B.
Je t'écoute, Yamina. Nous t'écoutons.
Pardon ? Oui, il y avait des pieds noirs. Il y avait la famille Trémol, il y avait la famille Martinez, il y avait la famille Belkaïm, il y avait la famille David, qui arrivait de Tunisie. Il y avait la famille Rosa de Tunisie également, il y avait la famille Lota, il y avait le P, à l'exception du P5, du 5, où il y avait deux ou trois familles européennes, tout le reste c'était des Algériens. Il n'y avait même pas de Tunisie,
Yamina,
la seule famille tunisienne, c'est David.
Oui, donc et quelles étaient tes premières, en tant que fille, toi, quelles étaient tes premières sorties, occasion de sortir du quartier ? À l'époque.
L'occasion de sortir du quartier.
Pour les filles de ta génération.
Pour les filles, on n'avait pas. On n'avait pas l'occasion de sortir. On allait avec l'école, on allait à la patinoire, où on allait. Mais nos sorties, c'était uniquement avec l'école.
D'accord.
Dans le quartier, ils organisaient, quand il y avait la fête de la Saint-Jean, ou le 14 juillet, il y avait des fêtes, il y avait des kermesses. Là, on sortait, on y participait. Mais
donc,
sinon.
À travers ce que tu me dis, Yamina, j'ai l'impression qu'à cette époque-là, l'éducation était très stricte, quoi, et qu'au niveau des filles...
Oui. Il y avait le cinéma, tu sais, quand c'était la campagne, il n'y avait pas encore rien de construit, il y avait ce château, il y avait le cinéma en plein air. Et pour y aller à ce cinéma qui était en plein air, je me rappelle, on regardait le D'Artagnan, on amenait les chaises de chez nous, et on les posait, et on avait des parents à côté.
Ah oui, d'accord.
Il y avait le cirque qui venait. On l'aidait à monter le chapiteau, mais on pouvait pas, on n'avait pas le droit d'y aller si les parents nous accompagnaient.
Wally acquiesce, parce qu'il se souvient aussi que les grands frères étaient présents quand les filles sortaient, effectivement, elles étaient encadrées, escortées par la famille.
Nous, on avait pas beaucoup de différence d'âge entre nous et mon frère aîné. Mais mon père, lui, malgré son échoppe et qu'il travaillait dans son magasin, il avait bon pied, bon oeil. Hein. On ne pouvait pas ni aller à droite ni à gauche. C'était vraiment strict, c'était respectueux. Tout a changé. Le voisin, il te confiait ses clés, il partait.
Et à l'époque, Yamina, l'école était donc pour vous une occasion d'ouverture et de sortir du quartier.
Ah oui.
Vous alliez où au collège ?
Non, on a été... Moi, je n'ai pas fait le collège de la Busserine, puisque après, nous, on a quitté la Busserine pour qu'ils construisent le Grand Saint-Barthélemy. On nous a orientés vers la cité de Saint. C'est une maison faite pour des cochons, je m'excuse du terme, mais on avait en tout, pour des familles de 6, 7, 10 personnes, on avait 30 mètres carrés. Hein.
Ah ouais.
30 mètres carrés en tout, cuisine, salle à manger, chambre. On n'avait pas de salle de bain, on avait juste des toilettes. Et on a séjourné là-bas pendant de 1965. On est revenu, quand le Grand Saint-Barthélemy a été fait, en 69, on est revenu habiter au E11.
Oui, nous étions voisins.
Donc, dans le collège, je l'ai fait à Vialat, au boulevard Odo. Pas dans le quartier. D'accord. Quartier, non, on est parti en 65.
Est-ce qu'on peut dire que le collège était pour vous une occasion d'ouverture et de s'ouvrir sur
ah,
le monde,
oui,
on va dire?
Oui, bien sûr. Bien sûr. Que ce soit l'école, que ce soit le collège, c'est ce qui nous ont tout apporté.
Est-ce que tu te
Parce
souviens,
nous,
Yamina?
Nos parents, déjà, ils ne savaient ni lire ni écrire. On n'avait pas de loisirs comme il y a aujourd'hui, ceux qui veulent faire des ateliers de peinture, ou ceux qui veulent faire du théâtre. Ceux qui veulent... Moi, ma passion, c'était le théâtre, mais je n'avais pas droit, parce que pour moi, pour mon père, ce n'était pas perçu du bon œil, c'était interdit.
Surtout les pour une fille, peut-être,
limite,
non?
Les filles, interdites.
Pour les filles, hein, oui. Ah, oui. Bon.
Ah oui, les filles, interdites. Moi, j'ai joué les fourberies de Scapin au Gyptis, et quand je suis rentrée, je me suis pris la route.
Et avec le recul, qu'est-ce que tu penses de cette éducation-là, de ces contraintes-là qui étaient vécues, de ceux qui étaient vécus à l'époque comme des contraintes?
Avec le recul, ces contraintes-là, moi je pense qu'elles ont été bénéfiques. Parce qu'elles nous ont permis d'avoir une autre vision. C'est certain qu'on a souffert de ces interdits au moment où ils étaient interdits. Mais après, on a pensé que nos parents nous ont donné quand même une bonne éducation.
Je te remercie, Yamina, pour ce second témoignage. Sidi, on va faire une petite pause musicale. À tout à l'heure.
Bonne journée à tous. Et...
Merci, Yamina, à tout à l'heure.
Au revoir.
Je ne reconnais plus ma rue. Où est mon centre-ville? Celui d'avant a disparu. QNQSCV à tous ces enfants de l'âge. À nos rues indomptées, génération du crabe. Ma ville entière a sombré, soumise, ombré pour en faire une belle ville de la côte d'Azur. Marseille City en chantier, dernier coup de massue. En faveur de leur modèle, des dossiers sous leur cocktail. Grotesque à l'heure où mes frères saluent. Pendant qu'ils construisent leurs hôtels, plus belle est ma ville que dans vos têtes. Marseille refaite à notre insu. Petit déliment, je longue peine au gommettes ou à l'une. Pour pas grand chose dorénavant, on te fera dire. Qu'est-ce qu'est devenue la Joliette après expulsion par centaines? Certainement parce qu'on aurait voulu. C'est la ville du bled. Paris ce temps est révolu. Capitale de la culture européenne. Si c'était une blague, c'est sûr qu'on ne l'aurait pas cru. Marseille redessinée par Euromède. Venu chambouler toute la culture de la ville. L'écart se creuse, ressent la fracture qui s'ouvre. Marseille, capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Aux colons de la belle cité de Fossé. Tous leurs plans ne sont qu'à l'opposé. De la tradition, de l'esprit, de la ville millénaire qui a toujours rassemblé les communautés. Terre d'accueil, ouvert à l'autre. Rebelle au roi, terre d'asile des apôtres. Commence à la porte de l'Orient, élu capitale de la culture de roi. MARSEI, 2LE est à la une. Je reconnais plus ma ville, paraît qu'elle est devenue bien une. Choc des cultures, 2013, prix de vitesse. Flic et caméra à chaque coin de rue. Expulsé pour du business, compte ce qui reste. Esprit démoli comme ces murs qu'on a toujours tenus. Alors je dédicace les petites teignes, anti-système. Qu'on souhaite en cage ou pire, qu'est-ce que les miens vont devenir? Nos rues se remplissent de tristesse. Un genre d'apartheid se dessine. La zone c'était pas que l'ivresse. La camaraderie, la vraie, la joie, y'avait pas de carabine. Car la gypsesse, ici la jeunesse est en péril. Rien n'est fait pour elle et ça c'est vrai depuis des piges. Entassé dans des blocs, la selle ici c'est dans le gîte. Plus de place dans les réseaux donc ça tire dans le vif. Refont nos quartiers et nous virent. Pendant que la misère s'accroît, tranquille se pavane les touristes. Pendant que mes frères sont au placard, partout les caméras nous fixent. Pour mieux aseptiser chaque place et l'identité de la ville. Marseille, capitale de la rupture. Marseille, capitale de la rupture. Marseille, capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Marseille, capitale de la rupture.
Bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Donc, nous sommes sur l'émission radiophonique du 29 mars 2018 en présence de Mokhtar Wali. Et nous avons eu comme intervention celle de Yamina Tir et de Latifa qui nous alimentent en information par téléphone. Donc, effectivement, les chalets, Latifa nous disait qu'il était derrière le bâtiment P dans l'attente des constructions du collège Émile Vessière. Voilà. Et Walid se souvient aussi qu'il y avait des cours d'arabe, de coranique qui s'y déroulaient. Quels sont les noms de famille, je crois que tu me les as dit, hein, importantes du quartier, les familles qui ont œuvré pour la mobilisation de la population du bâtiment P ou Busserine.
Qui ont œuvré. Œuvré, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont fait quelque chose.
Tout à fait.
Alors, il y a eu M. Grammonier, il y a eu M. Muratti, il y a eu M. Lopez. Bien sûr, ça va de soi. M. Tyr, M. Cedrati.
Sur un petit bâtiment. Le bâtiment P...
N'oublions pas quand même que l'intervention de M. Alain Sobrero a été très bénéfique au quartier.
Oui. L'Atome.
L'Atome. Ah oui, oui, oui.
Monsieur Marc aussi.
Monsieur Marc Crescent. Il y en avait un qu'on appelait Rouge-Gorge. Bon, il y en a eu. Hein. On en a connu des animateurs. Mais bon, eux, ils ont fait des trucs extraordinaires pour nous. Il faut être honnête quand même. Nos premières sorties, c'était eux. Nos premières colonies de vacances, c'était eux. Quand on avait des ennuis, c'était eux. Voilà, c'est pour ça, ils ont tout fait pour nous. Hein.
D'accord.
On ne peut pas les oublier, ces gens.
Et c'est bien de leur rendre hommage et de se souvenir, parler d'eux, c'est continuer à les faire exister dans la mémoire collective. On a parlé tout à l'heure des premiers changements, donc les premières difficultés avec la délinquance, les rondes de voitures volées, les premiers petits larcins, l'arrivée de la drogue dans le quartier, est-ce que tu t'en souviens? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? En quelle année? On ne t'a pas demandé de nous donner des noms, vous voyez?
Non, non, ça veut dire donner des noms.
Tout à fait,
Je sais que même en vieillissant, je ne sais pas ce que ça veut dire de donner des noms. Voilà. Il y en a qui connaissent, qui savent, en vieillissant, donner des noms. Mais moi, non.
Je sais, c'est pour ça que je...
Mais bon, je pense que quand il y a eu l'arrivée de...
D'abord, c'était le shit.
De la drogue, c'est-à-dire du hashish.
Le hashish.
Je n'étais pas présent.
D'accord. Voilà. Ben, alors, je pourrais dire que c'était dans les années 80.
J'ai eu un incident de parcours. Et qui a été très long, et c'était la période
où tu étais absenté du quartier. Voilà. Donc c'est une période que je situerais, moi, dans les années 80, avec le premier réseau, parce qu'au départ, il n'y avait qu'un seul réseau dans le quartier. À l'heure actuelle, qu'est-ce que tu peux nous dire, puisque tu es encore habitant du quartier, des années 60, oui. On est en 2018, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la vie du quartier aujourd'hui par rapport à ce que ça a été hier?
Mon point de vue personnel, strictement personnel, la drogue, bon, elle a toujours existé, hein. Je pense qu'elle existera toujours, mais par rapport avant et maintenant. Alors, avant, il y avait du respect. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Parce que je ne juge pas ceux qui font ça.
Tu constates.
Je constate simplement. Mais ceux qui font ça, ils le font, c'est à leur risque et péril. Mais je veux dire, on peut faire les choses avec respect. Même si ce n'est pas bien, hein, pour la justice bien sûr, mais on peut le faire avec respect.
Est-ce que tu n'as pas l'impression, Wally, qu'il y a un anonymat qui s'est installé dans le quartier? C'est-à-dire qu'avant, moi, quand je traversais le quartier, je connaissais tout le monde. Tous les visages m'étaient familiers. Maintenant, tu as quand même beaucoup, beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Et est-ce que cet anonymat-là ne nuit pas quelque part à la vie du quartier?
Personnellement, non. Il ne nuit pas. Oui, il engendre des petits problèmes. Mmh. Hein. Mais je veux dire par là, il suffit que les gens qui font ça, qu'ils soient conscients qu'il faut être respectueux. Personne ne va rien leur dire, mais qu'eux ne fassent pas des trucs.
L'arrivée des jeunes, tu veux
exactement.
Dire. Des jeunes
voilà, il faut respecter.
Moi, je le dis.
On n'est pas là pour juger, mais il faut respecter.
Ce que Wally ne dit pas, c'est que, bon, en fait, avec l'arrivée de commerce parallèle, on a l'affluence de beaucoup de bandes de jeunes dans le quartier. C'est cet anonymat-là dont je parlais tout à l'heure et qui fait que, forcément, les relations peuvent être compliquées entre la population issue du quartier et ces nouveaux commerçants ou ces nouveaux jeunes qui squattent aussi des halls, des porches et des entrées d'immeubles. Et forcément, ça induit un climat d'insécurité, plus ou moins, ou de malaise, de mal-être. Certains habitants ont l'impression de ne plus être chez eux en 2018, alors qu'auparavant, il y a toujours M. Mokhtar, M. Ega, M. Luciat, des garants de la paix sociale. Et les gens osent peu prendre la parole quand ils se trouvent confrontés à cette jeunesse-là, pas sans foi ni loi, mais avec donc moins de conscience, de respect pour les anciens qu'ils ne connaissent pas, en fait. Voilà. La vie aujourd'hui, comment cela se passe? Est-ce que tu as l'impression que toi, qui es encore au cœur du bâtiment M et L, qui reconnaît des anciennes familles, il y en a quand même quelques-unes qui sont restées, que ce soit les Mégani, les Ziani et tant d'autres, est-ce qu'il y a encore, Madame Amouche, une solidarité? Est-ce que les gens arrivent encore à... C'est vrai que c'est une population vieillissante, mais est-ce que
très vieillissante, et parfois, bon, malheureusement, il y en a qui ont perdu un petit peu la tête, et là, nous, on n'y peut rien. Hein.
C'est la génération de nos parents, en fait.
On n'est pas médecins, hein. Alors, bon, on les voit.
Mais au niveau de ta génération, à toi, oui. Est-ce qu'il y a ce...
Ma génération, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont partis, hein, parce que je pense quand même à mon enfance, on a passé des mois, des années merveilleuses, que ce soit en boîte, que ce soit en jeu, que ce soit en sortie, en tout. Je pense à Matteo, à Bisco.
À tous ceux qui sont partis, quoi.
À tous ceux qui sont partis. Cette
génération qui voilà. Sont décédés.
Nouri Mosba.
À Lali.
Tayeb Alali. Les Espias, Roger, quoi. Ouais. Je pense à tout ça et je suis peiné. Parce que, bon, voilà. Et certains qui ont perdu malheureusement la tête, il y en a qu'on ne revoit plus parce qu'ils sont partis loin.
Est-ce que tu ne penses pas que partir du quartier, à un moment donné, ce n'est pas vital? Toi, pourquoi tu es resté d'ailleurs au quartier? Comment tu as pu traverser toutes ces années-là et rester toujours dans ton quartier d'origine?
Ben parce que moi, j'aime mon quartier. Moi, je l'adore même. Mon quartier, je l'aime. Je l'aime à fond.
C'est-à-dire voilà. Que malgré
c'est ma vie.
Malgré les changements.
J'espère y mourir.
Ah oui, carrément. Ah oui. Tu ne te vois pas partir
non,
du quartier.
Non, je ne me projette pas ailleurs pour le moment parce que. Et puis à mon âge, je ne vais pas me projeter. Ça y est.
Attends.
Non, ça y est.
À ton âge, tu n'es pas mort, on va dire. Hein, on a le même âge.
Je ne suis pas mort, mais.
Mais tu ne te vois pas te sortir du quartier, en fait. Tu n'en as pas envie.
J'aime mon quartier.
Ouais. Comme quoi
mon quartier. Mon quartier, quoi, mon quartier? Mon quartier, il est desservi. Par le 27, par le 28, par le 53, par le 33, par le 38, j'ai Carrefour, le Merlin,
tout ce qu'on avait
j'ai
pas
Lidl,
avant.
Ouais. J'ai la piscine, j'ai le stade. Pourquoi je vais partir?
Ouais. Alors justement, au niveau de la rénovation urbaine, puisque quand même le bâtiment P a été démoli, le bâtiment E a été démoli, il y a eu quand même pas mal d'ouvertures. En fait, ça a été justifié comme ça pour faire que ce quartier ne soit pas un ghetto. Malgré toutes ces ouvertures-là, donc... tu as quand même, malgré les difficultés, puisque quand même on a parlé du changement de climat du quartier, on a vu récemment cette semaine, d'ailleurs, on a vu des incidents donc, qui se sont passés au Mail. On a vu la police sillonner le quartier en contrôlant les véhicules, la population. Tout ce climat-là ne te renforce pas dans l'idée de « il faut partir ». Non, tu as l'impression qu'une vie est possible encore à la Busserine.
Non, pourquoi? Oui, la vie, elle est possible de partout. Mais pourquoi on ne se projette pas aussi rapidement que ça, même que le quartier est devenu un petit peu malsain, comme on dit.
Différent.
Mais je vais me projeter avec quoi? Moi, je n'ai jamais été économe. Avec quoi? Il faut que je gagne l'auto.
Est-ce que,
faut-il alors, encore jouer?
D'accord. Alors, au niveau de la rénovation, ce qui a été fait dans le bâtiment où tu habites, parce que je suis rentré récemment, j'ai vu que quand même, il y a eu un effort qui a été fait de la part de la logie REM pour le bâtiment M, L. Qu'est-ce que tu penses de la rénovation de...
J'en pense pas du bien de la rénovation.
D'accord.
Non, j'en pense pas du bien. Parce que quand j'apprends que il y a 36 000 euros par appartement
d'investissement
et qu'il y a à tout casser 12 000 euros qui sont investis, je me demande où part le reste. Et ça me peine.
D'accord.
Ça me peine énormément. Voilà.
Est-ce que tu as l'impression que c'est un changement de façade? Alors là, il y a la L2 en ce moment qui traverse devant le bâtiment de Latifa, qui nous coupe de fond vert et de piquant. Est-ce que ces changements-là, tu penses que c'est un bienfait pour le quartier?
C'est un bienfait pas que pour le quartier. Pour tout un ensemble, ne serait-ce que pour la circulation.
Pour la ville.
Parce que maintenant, on est envahi par énormément de voitures. Et c'est vrai que c'est...
Ça désenclave.
Exactement. Ces gros travaux vont désenclaver toute cette circulation. Ça va être un peu plus fluide.
Cela va être. Mais la période...
Voilà. Cela
la
va être, oui.
Parce que ça veut dire qu'il y a quand même eu des travaux qui ont commencé il y a 2 ans, quand même.
Non, 3 ans.
Trois ans.
Trois ans qui nous ont pourri la vie. Hein, ouais. Jusqu'à l'heure actuelle, c'est pas terminé encore. Ouais. Voilà, ben on subit, hein, on va faire quoi?
Tu es optimiste encore par rapport à...
Ouais.
Oui,
ouais.
Tu es foncièrement optimiste. Ouais. Eh bien, Wally, je te remercie pour tous ces éléments que tu nous apportes. On va faire une nouvelle pause musicale.
Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'on devint un animal, troqua son âme contre du papier. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'on devint un animal, troqua son âme contre du papier. Nous avons vaincu nos frères, nous avons pillé leurs terres, nous nous sommes déployés. Abattus des millions d'arbres, sans remords ni palabres, des forêts entières de papier. Pour l'Empire nous travaillons, nous nous avilissons, pour quelques bouts de pain. Et pour lui nous croisons le fer, comme nos parents naguère, comme nos enfants demain.
Combien de guerres, combien de scandales, combien d'hommes de papier. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, son âme contre du papier. Nous nous sommes trouvés un dieu d'or noir et de feu, de bronze et de papier. Nous lui avons dédié des temples, sacrifié pour l'exemple ceux qui n'avaient pas de papier. Nous avons, quand vint l'hiver, écrit sur des billets verts que Dieu protège l'Empire. Jusqu'aux épines des roses, donner un prix à chaque chose, même à l'air que l'on respire. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'on devint un animal, troqua son âme contre du papier. Combien de guerres, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier.
avons conquis, tout ce que nous avons bâti sur les ruines de nos pères. Ce royaume si fragile, géant aux pieds d'argile, redeviendra poussière. Soldats, un jour soudain, notre pays ne vaut plus rien, c'est tout un empire qui éclate. Nos montagnes de billets, pour nos villes, nos palais, vulgaire chat de cartes. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papes. Ainsi l'on devint un animal, troquait son âme contre du papier. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'on devint un animal, troqua son âme contre du papier. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'on devint un animal, troqua son âme contre du papier.
Nous revoici ensemble pour l'émission radiophonique des Échos de la Busserine en compagnie de Mokhtar Ouali. C'est vrai que pendant la pause, on me parlait de travailleurs sociaux qui ont marqué la vie du quartier, notamment Marie-Geneviève Martin, qui a aussi beaucoup œuvré pour le quartier. Marie-Geneviève Martin, parmi les, pour faire court, Ouali, est-ce qu'on pourrait parler de, tu as parlé de ton désir de rester dans ce quartier? Des avantages au niveau de la, des réseaux de transport, au niveau de, du commerce, des commerces, Carrefour Le Merlan, Lidl, d'une vie encore maintenue malgré les difficultés, entre, d'une certaine solidarité entre les gens de ta génération que tu reconnais. Est-ce qu'il y a eu des belles réussites dans ce quartier? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ce que tu as retenu parmi des projections positives? C'est-à-dire que vivre à la Busserine, ce n'est pas que les meurtres, le deal, les difficultés, le chômage, voilà, la précarité.
Oui, oui, la précarité, elle est existentielle. Les risques, l'insécurité, ils sont aussi existentiels. Mais dans tout ça, il y a eu quand même des réussites extraordinaires. On a eu notre première réussite déjà, Monsieur Adjaoud Majid, qui jouait à Sedan, au ballon. Puis après, on a eu Amada Jambé, qui jouait à l'OM. Et dernièrement, nous avons eu Kassim Abdellah, professionnel aussi, qui jouait à l'OM. Voilà. Puis après, il y a eu d'autres réussites à un autre niveau. Il y a eu des avocats, il y a eu des médecins, il y a eu des ingénieurs, il y a eu de tout, malgré le quartier. C'est des gens qui ont réussi avec leurs capacités.
Donc Wally nous fait bien d'insister, au niveau du foot, il nous a dit, mais c'est vrai qu'il y a des gens issus de ce quartier. Moi, je pense à la famille Génisson aussi, du Mail, où il y a eu dans la famille Génisson, donc
médecin, avocat,
pharmacien, etc. Donc effectivement, au niveau de la culture, je pourrais parler de Arsem et HM. Rue 14, donc l'un d'entre eux est réalisateur et dans le cinéma, et l'autre frère vit en Asie après avoir vécu aux États-Unis, et il fait designer pour une marque de chaussures, donc il fait des chaussures comme Adidas, comme voilà. Nous avons aussi plus près de nous Aboubakar Nouridi qui travaille avec nous, qui est un partenaire, on va dire, au niveau de la mémoire de ce quartier, qui a fait des fresques murales, notamment il y avait la grande fresque, c'était la première la fresque la plus grande au départ de Marseille, dans la cité, au niveau de la Benosse. Donc on participait avec Aboubakar Nouridi, et il est maintenant, on lui passe des commandes pour travailler dans la ville de La Ciotat. Il a fait des bandes dessinées. Et il pourrait, mon rêve, ce serait de le voir travailler avec Euro Disney, avec Walt Disney, parce qu'il a des compétences. Voilà. Donc il y a eu quand même pas mal de gens qui ont pu s'en sortir malgré leur case de départ, le quartier et ici à la Busserine. Je te remercie pour toutes ces interventions, pour ces témoignages. Et tu disais qu'il y a eu des familles que tu avais oublié de citer tout à l'heure. C'est une famille, la famille, hein, voilà. Avec monsieur et madame, des parents qui ont tout fait aussi pour que leur finiture réussisse. Et malgré tout, ils ont obtenu des résultats. Mais toutes les familles ont été impactées. Je peux parler de la famille EGA à laquelle j'appartiens. Et nous avons eu aussi, il me semble que pour vivre dans ces quartiers, nous avons tous payé notre tribu. Et il y a forcément, à un moment donné, des cases plus sombres, des réalités. Voilà, c'est comme ça. Quand on est issu d'une famille nombreuse et qu'on habite un quartier comme la Busserine, eh ben on paye son tribut et puis parfois il y a des écailles, des erreurs de parcours. Et puis les gens se reprennent, ils ont droit à une seconde chance, une seconde vie, et puis ils rebondissent et puis la vie suit son cours. Wally, je te remercie, je te souhaite une bonne journée.
C'est réciproque.
On te dit à bientôt. Et à vous, chers auditeurs, nous vous remercions pour cette écoute et nous passons la parole à Sidi pour le mot de conclusion. À bientôt.